pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel.
Pendant qu'Ottawa tente d'amener une nouvelle bannière pour générer plus de concurrence entre les épiceries canadiennes et faire baisser la facture des consommateurs, un joueur qui n'a peut-être pas pignon sur rue prend de plus en plus de place dans le domaine de l'épicerie avec des prix particulièrement alléchants, c'est Amazon. On en parle avec Sylvain Charlebois, économiste et spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Bonjour, M. Charlebois.
Bonjour.
Amazon en épicerie, est-ce qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie?
En fait, Amazon va rentrer chez nous et non pas dans un magasin. En fait, Amazon, on sait bien, c'est un cyber-joueur. C'est pas un joueur qui va avoir pignon sur rue à quelque part, mais c'est un joueur qui est puissant. Utilise sa logistique vraiment pour optimiser ce qu'on appelle le dernier mille, le mille le plus cher. Ah ouais. Ce qui rejoint le magasin aux maisons, c'est le mille qui coûte le plus cher. Puis Amazon maîtrise très bien ce mille-là avec sa logistique. Alors, c'est pour ça qu'Amazon est en mesure d'offrir de très, très, très bons prix, très compétitifs au Québec, autant au Québec qu'ailleurs, là.
La logistique d'Amazon au service de l'épicerie, ça pourrait avoir un effet néfaste pour une industrie que l'on a ici, dont nos détaillants en épicerie. Comment doivent-ils réagir? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'enligner puis de s'aligner un peu là, comme le débat qu'on a vécu il y a 10 ans, l'arrivée d'Uber. Puis c'est une industrie qui se protège. Puis là, l'arrivée d'Uber fait en sorte qu'on se réveille tous pour dire « ben, on est-tu en train de la menacer? » Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter, les épiciers traditionnels?
Ben, ça fait longtemps qu'ils s'inquiètent. En 2017, si vous vous rappelez, Amazon achetait Whole Foods.
C'est vrai.
Aux États-Unis. C'était vraiment le réveil, là. C'est là, tout d'un coup, qu'on a commencé à voir les click and collect, là, les épiciers qui nous invitaient à aller chercher notre commande qu'on avait fait en ligne, là. Et c'était vraiment comme un modèle qui les accommodait plus que d'autres choses. Il fallait quand même se déplacer tout de même pour aller chercher notre nourriture. Mais avec la COVID, avec l'arrivée de la COVID il y a 4 ans, c'est là qu'on a vraiment vu l'émergence de stratégies cybernétiques chez les grandes bannières, comme voilà chez Sobeys. Metro a amplifié son offre aussi. Dans le cas de Loblaws, c'était moins clair, mais en gros, Costco livre maintenant, ce qu'il faisait pas auparavant. Alors vraiment, on a tenté de rejoindre les clients, mais il en demeure pour moi que les meilleurs sur le marché, c'est Amazon. Écoutez, Amazon est en mesure de mieux nourrir le Nord canadien que le gouvernement canadien, là. Le programme Nutrition Nord est un désastre. On a vraiment fait en sorte que les prix ont explosé, mais Amazon, les membres Prime dans le nord du Canada sont en mesure d'aller chercher des produits à bon prix, là. Donc, c'est quand même assez exceptionnel.
Ben, on a vu que Amazon, je pense qu'il avait même participé à la distribution de certains vaccins parce que le réseau de logistique et de livraison est tellement plus solide que le réseau de Post Canada, par exemple, ou des autres ils se sont servis de certains leviers de cette chaîne d'approvisionnement. Monsieur Charlebois, la question qu'on se pose, c'est, on voit que des prix sont beaucoup plus alléchants chez Amazon en matière d'épicerie. Est-ce que c'est une stratégie, vous pensez, de pénétration de marché où on cache les prix, on fait de la concurrence presque déloyale, de manière à attirer une clientèle, la garder captive et ensuite faire exploser les prix?
Avec la nourriture, on crée des habitudes. Beaucoup plus facilement. Hein? On a besoin de nourriture à chaque jour, donc on crée des habitudes beaucoup plus facilement, bien sûr. Mais ce qui arrive au Québec particulièrement, il y a un contexte quand même intéressant pour Amazon. On a vu la fin du panier bleu récemment. Alors, c'est sûr que
certaines mauvaises langues pourraient dire « A-t-il déjà existé le panier bleu? » Mais c'est pas grave, commentaire éditorial.
Mais vous savez, le panier bleu était offert qu'en français, puis je peux comprendre les raisons pourquoi, mais Amazon offre le service bilingue, et puis l'Internet est un monde essentiellement anglophone, alors c'est pour ça que on va optimiser beaucoup de choses chez Amazon, mais effectivement, le monde, l'achat alimentaire au Québec, vraiment tire de l'arrière par rapport à d'autres provinces, mais il va y avoir un rattrapage assez agressif chez Amazon, donc je m'attends est-ce que de plus en plus de Québécois utilisent Amazon pour s'approvisionner de produits alimentaires?
Est-ce que c'est, vous savez, si ça va être les produits alimentaires non périssables ou est-ce qu'on pourrait avoir des fruits et légumes à travers Amazon?
C'est pas évident pour plusieurs de laisser quelqu'un qu'on connaît pas de choisir nos tomates et nos cocons.
Ah, mais j'ai développé cette capacité-là parce que moi, je fais livrer mon épicerie. Et au début, tu sais, moi, j'aimais ça, aller voir ma tomate puis la choisir. Et je me suis rendu compte que tous les magasins, toutes les bannières portent une attention particulière à la qualité des fruits et légumes qu'on nous envoie parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrête de commander chez eux.
Écoutez, c'est une belle observation. Nous, une fois de temps en temps, on va commander puis on n'a jamais eu de mauvaise surprise. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui veulent quand même avoir le pouvoir de choisir leurs tomates et puis leurs oignons puis tout ça. Puis je peux comprendre ça, mais c'est sûr que les segments non périssables, ce sont les secteurs, les catégories qui sont plus populaires pour ce qui est de l'achat en ligne, ça c'est clair. Mais tranquillement, pas vite. Avant la COVID, il y a beaucoup de gens qui se disaient, mon Dieu, je laisserai jamais un étranger choisir ma place. Mais les gens surtout les milléniaux, la génération Z, les plus jeunes, là, eux pour eux, ils sont quand même plus à l'aise d'octroyer le pouvoir à quelqu'un qui connaît pas de choisir les produits frais, là.
J'aimerais revenir sur un de vos tweets, ce que vous avez fait récemment, et ça porte sur les pâtes alimentaires de Barilla. Puis vous avez fait une comparaison entre ce qui est vendu au Canada versus ce qui est vendu aux États-Unis pour le même 100 grammes. Et ce que vous avez révélé, pour moi, ça m'a complètement choqué. 100 grammes de pâtes Barilla aux États-Unis coûtent 41 sous. Les mêmes 100 grammes de pâtes au Canada coûte 73 sous. Qu'est-ce qui justifie ça?
Ben écoutez, c'est la densité de la population, ce sont les coûts de production. Ce que les gens ne se rendent pas compte au Canada, c'est que c'est pas un marché qui est efficace. Surtout au niveau de la distribution. C'est peu de monde au sein d'un grand territoire, ça coûte très cher. Alors, c'est pour ça qu'une compagnie comme Barilla va développer, et je sais pas si vous avez marqué dans mon tweet, là, c'était pas nécessairement la même gamme de produits, le même produit, mais dans les faits, c'est le même produit. Exact. C'est qu'on est en mesure de développer de nouveaux emballages, différentes sortes. Donc, quand vous allez aux États-Unis, et j'étais aux États-Unis la semaine passée, on a beaucoup plus de choix, là, comme énormément plus de choix, tandis qu'au Canada, on a beaucoup moins de choix, donc moins de compétition. Et ce qui, évidemment, pousse les prix à la hausse.
Mais la production de Barilla, je peux pas croire qu'il y a de la production qui est spécifique au Canada. J'imagine qu'il y a de la production où on utilise des économies d'échelle dans les usines qui fournissent l'Amérique du Nord. Comment se fait-il qu'à Plattsburgh, si je prends ma voiture puis que je roule pour 45 minutes, j'arrive au Walmart, je peux acheter des pâtes pour 41 sous pour le 100 grammes, alors que si je vais à Saint-Bernard-de-la-Colle, juste de l'autre côté de la frontière, je vais payer plus cher. Est-ce qu'on a trop de réglementations dans le domaine agroalimentaire, M. Charlebois, qui font en sorte qu'on est en train de s'auto-étouffer parce qu'on leur impose bien des choses qui ont un coût et finalement, c'est nous qui le payons?
Je pense que c'est une question importante à se poser. Parce que là, depuis quelque temps, ce que je remarque depuis 2-3 ans avec l'inflation alimentaire, tout le monde pointe du doigt les épiciers, les transformateurs, les producteurs. Bon, on se pose jamais la question à savoir, bon, le cadre législatif, les règlements, est-ce qu'ils sont justifiés et justifiables aujourd'hui? Et là, je pense essentiellement aux barrières interprovinciales. C'est vraiment le cauchemar de toutes les entreprises qui veulent développer des marchés à l'extérieur du Québec ou qui veulent... Moi, je suis dans les maritimes actuellement. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent développer le marché québécois. Mais c'est très difficile, vous savez, de développer d'autres marchés. C'est plus facile de développer le marché américain que de développer des marchés intra-canadiens. C'est incroyable. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec le ministre Champagne et c'est vraiment là-dessus qu'on mise. Là, on veut l'encourager à développer des conditions gagnantes pour supporter notre filière agroalimentaire domestiquement. Là, on parle pas d'exportation. Domestiquement, il y a beaucoup de travail à faire.
Il est où le secret? Est-ce que c'est dans des circuits d'approvisionnement plus courts? Mais là, est-ce que Est-ce que c'est baisser les taxes, détaxer plus de produits alimentaires? C'est où le secret où on devrait concentrer notre énergie là, si on avait 20 % d'énergie pour 80 % de résultats?
Ben, d'abord, il faut travailler sur les barrières interprovinciales parce qu'il y a toutes sortes de règles d'une province à l'autre qui se conjuguent mal. Là. Ça, c'est une chose. Surtout au niveau de la qualité des aliments, des choix, tout ça. Au lieu de laisser une province à faire ses choix, on devrait laisser aux consommateurs de faire les choix. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je pense qu'on taxe trop au détail. Ça, c'est quelque chose qu'on mentionne pas suffisamment. Vous savez, il y a un épicier standard va avoir 4600 produits qui sont taxables pour toutes sortes de raisons, parce que ce sont des collègues. Ben oui, c'est énorme. Puis là, on parle pas de produits... Donc, de barres de chocolat, des produits qui sont moins bons pour la santé, ça, c'est correct. Là, on devrait taxer ces produits-là, mais je parle de salade, de sandwich. Il y a des produits qui ont été victimes de la réduflation. Oui. Donc, il y a des boîtes de granola où il y avait 6 barres. Ça, c'est pas une collation, mais à 5 barres, c'est une collation et taxable. Et au Québec, c'est un autre 15 %. Les gens, ça ne rendent pas compte, mais 4 muffins... C'est un produit alimentaire. 2 muffins, c'est une collation dont taxable. C'est le même produit, là.
Ça, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça, mais la réduflation
fait en sorte qu'il y a de plus en plus de produits qui sont taxables à l'épicerie, imaginez-vous.
Alors, il devrait y avoir une révision du régime fiscal et de la taxation des produits alimentaires, là, puis une reclassification des produits taxables et non taxables.
Amen. Absolument. C'est un coût fiscal vraiment discret, sournois, vraiment, pour les consommateurs. Parce combien de fois vous regardez votre reçu en sortant de l'épicerie, vraiment, là?
Zéro puis une barre, là.
C'est ça. Il n'y a personne qui vérifie le reçu.
Mais non,
moi,
mais
c'est
parce
rare
que
j'ai le temps de le
faire. Je sors avec une crise cardiaque, je n'ai pas le temps de lire. Là. J'ai déjà fait le saut quand ils m'ont donné le total. Mais c'est vraiment intéressant, ça. Je savais pas que la réduflation a fait en sorte que des produits en transféré de catégorie se remettent à être taxables. Les familles devraient le savoir parce que là, ça commence à être plus intéressant. Puis peut-être que les achats pourrait être fait de manière différente une fois qu'on sait qu'on a un 15 % qui va nous tomber dessus à l'épicerie arrivée à la caisse.
15 %, c'est énorme, là.
C'est énorme.
C'est énorme, 15 %. Ben oui, absolument. Puis c'est de l'argent versé à Ottawa. Nous, on estime qu'il y a plus $1 milliard perçus par les épiciers au détail avec notre argent qui est renvoyé à Ottawa.
Hey, ça, c'est énorme.
Pour l'alimentation, là.
Ouais. Ben, je pense qu'on a des pistes de réflexion. Pour le ministre Champagne, il n'a plus besoin d'inviter les grands patrons des bannières. Invitez juste nous, là. On est capable de vous sortir ben des idées, là. Puis vous allez voir, ça va marcher. Puis vous n'allez pas avoir besoin de regarder votre circulaire avant Thanksgiving pour dire que ça a fonctionné.
Exactement. Absolument.
Sylvain Charlevoix, économiste et spécialiste de l'industrie agroalimentaire, l'Université Dalhousie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Au revoir.